Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
C'est avec plaisir que je vous présente un nouvel épisode de Pour moi, la famille. Un podcast où nous allons à la rencontre de familles et futurs parents de la communauté LGBTQ+. Dans le dernier épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer trois familles avec des parents trans et ou non-binaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous en présenter deux de plus. Le premier entretien va être en compagnie de Kai Olivier et Andy, un homme et une femme trans, qui partageront leurs expériences respectives en ce qui concerne la préservation de leur fertilité. Pour le second entretien, on va avoir la chance d'écouter Mona, qui co-anime ce podcast, et sa fille Margot July. Elles vont discuter avec nous du moment où est-ce que Margot July a fait son coming out comme femme trans, puis la réaction de Mona après l'annonce. Mais avant de commencer, comme d'habitude, une petite capsule vocabulaire. Et là, rendu à l'épisode 13, on n'a vraiment pas beaucoup de mots à définir, parce que vous commencez à être bon. Mais soyez attentifs, et j'espère que vous vous souvenez des capsules précédentes, parce que souvent, nos invités font référence à des mots qu'on a définis dans le passé. Le premier terme qu'on va définir, c'est euphorie de genre. C'est le sentiment inverse à la dysphorie de genre. L'euphorie de genre, c'est un sentiment de bien-être ou de confort lié au fait d'être respecté dans son genre ou d'être capable d'exprimer son genre comme on a besoin. Comme par exemple, pour plusieurs, une coupe de cheveux ou des nouveaux vêtements peuvent apporter de l'euphorie de genre. Pour moi, quand j'ai commencé ma transition médicale, d'avoir une petite moustache qui me pousse tranquillement me donner de l'euphorie de genre. Quand j'ai eu ma top surgery, comment les chandails me faisaient tout à coup, les vieux chandails que j'avais avant me donner de l'euphorie de genre. Plein de petites choses comme ça. Le prochain terme, c'est couverture de la fertilité. Donc, depuis le 10 mars 2021, après le projet de loi 73, le gouvernement du Québec couvre pour une période de 5 ans les couvertures de certains traitements de préservation de la fertilité pour les personnes trans. Pourquoi? Parce que certaines interventions médicales peuvent venir réduire le potentiel de fertilité chez les personnes trans, comme la prise d'hormones. Quand une personne trans est sur les hormones, il y a moins de chances qu'elle puisse soit tomber enceinte ou rendre quelqu'un enceinte. Ensuite, les chirurgies génitales vont réduire ou complètement arrêter le potentiel de reproduction, ce qui fait que plusieurs personnes trans vont vouloir préserver leur fertilité, donc congeler leurs gamètes, congeler leur sperme, leurs ovules, pour pouvoir plus tard avoir des enfants biologiques. La première famille, c'est celle de Kai Olivier et Andy. Les deux étaient en couple depuis déjà 7 ans au moment d'entamer respectivement leur transition de genre. Et elles ont dû prendre des décisions importantes par rapport à leur parentalité afin de s'assurer de pouvoir concevoir un ou des enfants dans le futur. Le couple a choisi de préserver leurs gamètes par cryopréservation afin de pouvoir concevoir un ou des enfants lorsque leur désir de fonder une famille se présentera. En attendant, le couple habite dans un appartement à Laval avec leur oiseau, Cannelle Étoile. Alors, comment je les connais? Mais Andy, c'était la présidente du conseil d'administration chez Alter Hero quand j'étais directeur général. Puis comme c'est son mari, c'est comme ça que j'ai rencontré Kai Olivier. Les deux, c'est les initiateurs du programme Neurodiversité chez Alter Hero, qui est vraiment un programme extraordinaire qui est pour et par les personnes neurodivergentes au sein de la communauté LGBTQ+. Je suis allé les rencontrer en juillet 2022 dans leur nouveau logement à Laval. L'appartement sent encore l'odeur de la peinture fraîche, les cartons étaient éparpillés partout. C'était vraiment le signe de la construction d'un petit cocon chaleureux pour ce charmant couple que vous êtes sur le point de découvrir. Donc, je suis vraiment content d'être venu vous voir aujourd'hui à Laval. Mona n'est pas là aujourd'hui, mais je connais personnellement Kai et Andy. Puis je suis vraiment content d'être venu vous voir. Ma première question, ça va être, est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement en disant vos prénoms, vos pronoms, puis toute autre information le fun?
Donc, mon nom, Kai Olivier. Malheureusement, je suis Lavalois, mais on essaye de se rattraper Laval. Il y a de l'espoir pour Laval. Voyons, c'est ça. Donc, mon nom, Kai Olivier, j'utilise les pronoms surtout il, lui. Quand je suis dans un espace queer, je vais souvent être plus à l'aise là, d'utiliser il ou de varier un petit peu plus. Sinon, je suis une personne transmasculine. pas mal l'identité qui fait le plus de sens parce que c'est un état de fait. J'ai fait une transition pour me masculiniser. Puis j'étais encore au milieu de la deuxième puberté. Là, j'espère que ma voix cassera pas trop.
Et toi?
Oui, donc moi, c'est Andy. J'utilise les pronoms « elle » ou « she »,« they » en anglais et je suis une personne transféminine.
Donc, ma première grosse question, c'est qui fait partie de votre famille?
Oui, bien, pour moi, c'est sûr qu'il y a en ce moment Kai et notre oiseau.
Qui s'appelle Cannelle Étoile.
Cannelle Étoile. Donc, Cannelle Étoile et vous deux et votre famille pour l'instant. Mais vous planifiez d'avoir des enfants.
On aimerait ça, justement. En fait, ce qu'on se disait, c'est d'avoir l'opportunité d'essayer. Est-ce que tout va se passer comme on veut? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va changer d'idée? C'est dur à dire, là, mais on voulait se garder le plus de portes ouvertes possible. Puis oui, ça fait partie là, des choses qu'on aimerait avoir dans notre futur.
Est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
Je veux dire, quand j'étais adolescente, puis en fait, comme genre avant que j'entame ma transition, je pense pas vraiment que j'avais de plan pour le futur. Je dois dire que pour moi, comme genre l'idée claire de vouloir des enfants dans un futur éventuel, c'est assez récent. Là. Avant d'avoir entamé ma transition, comme des fois, Kai m'en parlait, puis c'était juste le vide dans ma tête. Là. J'arrivais pas à me projeter là.
Ben, te projeter d'être en vie, finalement, là, que le futur allait exister.
Je veux dire que, comme, au fur et à mesure que je transitionne, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus les compétences et les capacités nécessaires pour prendre soin d'un enfant. C'est comme, oui, je pense vraiment que ça fait une grosse différence que, je veux dire, si tu peux pas être authentique avec toi-même puis que t'es pas capable de prendre soin de toi-même, d'après ça, de prendre en charge le bien-être d'un petit enfant tout démuni, je pense que ça serait trop.
Moi, c'est drôle parce qu'avant ma transition, j'ai toujours vu que je dis la maternité, mais c'est vraiment l'expérience pour moi de la grossesse, l'allaitement ou de... même si c'est pas mes enfants, peut-être des neveux, des nièces, être famille d'accueil. Je me suis toujours vu, de toute façon, je suis quelqu'un, là, le soin des autres, des plantes, les animaux, tout ça, c'est vraiment quelque chose là, qui fait partie de moi. Donc, oui, j'ai toujours vu que, en tout cas, je me voyais pas seul. Vraiment, là, d'avoir une famille autour de moi, mais quelle forme que ça peut prendre exactement, il y a toujours eu du lousse, mettons, là.
Puis, est-ce que la conversation d'avoir des enfants, ça a toujours été quelque chose de présent dans votre relation? Tu parlais un peu plus tôt, Andy, de justement pré-transition, de même pas être capable de te projeter dans le futur. Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez depuis longtemps?
J'ai toujours senti, tu sais, que comme pour Kai, comme il y a toujours eu comme un projet familial assez clair, puis il a souvent essayé d'aborder le sujet. Par contre, je pense que pour les premières années, je pense pas qu'il a reçu de réponses satisfaisantes à ces questions. Comme les réponses, c'est simplement comme j'en ai aucune idée. Je sais pas si toi, t'as perçu ça différemment.
Mais en fait, c'est drôle en fait parce qu'on parle de nos transitions, mais ça fait quoi, un an et demi, là, ça fait pas deux ans encore là, que voyons qu'on a amorcé ces changements-là concrètement. Moi, ça faisait longtemps là, que j'étais pas. J'ai toujours été une personne plus masculine, moins conforme dans le genre, donc c'était, mettons, pas une grosse surprise là, pour mon entourage. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'adolescence, justement, là, j'avais comme amorcé une transition sociale. C'était à l'époque où, avant là, les changements de la loi en 2015, là, on parle de 2010 à peu près. Il y avait encore la notion d'avoir l'hystérectomie là, pour avoir la mention légale de changement de sexe, tout ça. Donc, il y avait trop de pression pour moi. J'étais pas capable de... j'avais l'impression qu'être trans, ça voulait dire sacrifier beaucoup de choses, dont justement le fait là, d'avoir l'opportunité d'avoir une grossesse, d'avoir des enfants ou de... C'est quand je dis de garder des portes ouvertes, mais je trouvais que m'enfermer autant, là, alors que j'avais même pas fini le secondaire, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est dans mon corps de femme, mon rôle social de femme, je me suis dit, mais tant qu'à vivre, un peu, Elle me dit qu'il ne voyait rien, mais moi, je me suis dit, je vais faire de mon mieux pour être belle, être une bonne épouse. Là, tu sais, c'était important de me marier, de parler, d'avoir des enfants. C'était vraiment comme, je vais m'intégrer socialement. Mm-hmm. Puis jusqu'à, justement, là, quand j'ai amorcé ma transition, j'ai commencé à prendre la testostérone à 26 ans. J'ai fait des changements là, au niveau de mon nom, la mention de sexe, tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'ai vraiment essayé, puis ça m'a fait du bien de me le prouver à moi-même, que c'était pas ça le problème. Mm-hmm. Que ça, de me conformer, ça fonctionnait, mais au détriment de mon authenticité.
Comment votre identité trans a influencé votre désir de former une famille?
Je sais pas trop dans quel ordre on va aborder tout ça, là, mais on a eu comme un pas pire là, périple là, au niveau de la préservation de la fertilité. Puis même si, je veux dire, c'est relatif, là, je pense que ça s'est passé de la meilleure façon possible dans les circonstances actuelles. Mais ça m'a comme... Je suis pas pressé. Je suis vraiment pas pressé de me relancer dans tout ça. Je suis content que ça soit fini, cette première étape-là. Puis moi, ça a beaucoup remis en question mon désir d'être confronté au monde médical actuel dans un corps trans. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé ça vraiment rough, là, les derniers mois, honnêtement. Là.
Est-ce que tu peux me parler un peu de votre projet parental, mais aussi de comment... la fertilité, comment ça s'est passé, en fait?
Moi, ce que j'ai choisi, c'est faire préserver mes ovules. Il appelle ça de la cryopréservation. Je les ai faites congeler.
c'est ça que j'entends, là.
c'est pas mal ça. Mais on parle de mois, de plusieurs injections, des milliers de dollars, en tout cas, y accéder, c'est pas facile. Le faire, c'est pas facile. Les changements hormonaux, c'est pas facile. Puis retirer les ovules, je veux dire, ils sont à l'intérieur. Là. C'est une ponction, c'est une intervention médicale. Je sais pas si c'est chirurgical, mais c'est une aiguille. Là. C'est une aiguille qui rentre, puis il y a toutes sortes de... Voyons, ils m'ont rentré une couple d'affaires. Là. Ouais. C'est juste que l'échographie, là, que c'est intravaginal, beaucoup de gens qui manipulent, beaucoup de tests là, médicaux, les prises de sang, les suivis, puis beaucoup de... En tout cas, c'est très demandant au niveau administratif, au niveau financier, au niveau psychologique. Là, c'est extrêmement... en tout cas... Arrêter la testostérone, les hauts, les bas, là, de commencer d'autres hormones, finir d'autres hormones, rechanger d'hormones. Dans le fond, je me retrouve dans une gang de madame à la clinique qui sont là pour faire des bébés maintenant avec... Bon, c'est sûr, on salue là, toutes nos amies lesbiennes là, puis tous les gens queer qui vont dans les cliniques. Mais autour de moi, la documentation... Tu sais, oui, il y a un petit drapeau quelque part, mais... La plupart des gens, des documents, puis des... En tout cas, c'est comme un peu assumé là, qu'on a un couple cis-hétéro, puis qu'on vient faire notre bébé. Là. Mm-hmm. Puis moi, ben, je vis tout ça, puis je repars avec rien. Tu sais, c'est... oui, on a fait congeler ça, mais il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas d'enfant tout de suite, il n'y a pas de... Puis comme un peu... J'ai vécu tout ça, là, puis là, j'ai comme pas la satisfaction, en tout cas, de dire, ben on est en train de fonder notre famille, c'est plus, on a fait tout ça, on s'est fait juste bardasser dans la tête, là, mais c'était vraiment rough. Là. C'était vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à vivre en même temps. Puis là, ben, il faut qu'on se dise quand est-ce qu'on y retourne. Mm-hmm. Je suis moins pressé que j'étais, honnêtement.
Toi, Andy, j'imagine que c'était pour toi peut-être une manière de pouvoir commencer ta transition.
Oui, ben, en fait, moi, dans mon... comme genre, je l'ai fait comme avant de commencer à prendre des hormones, mais comme quand je suis allée à la clinique, comme genre, j'avais déjà comme genre la prescription, j'étais déjà passé la chercher, puis je suis allée une fois, j'ai attendu les résultats, j'ai dû retourner une deuxième fois, payer une deuxième fois, avoir la même expérience pénible une deuxième fois, puis après ça, quand je suis rentrée chez moi, comme une demi-heure après, genre, j'avais pris de l'estrogène pour la première fois, c'est... Que vraiment, j'attendais juste ça pour le faire.
J'imagine aussi que comme tu t'es dit que ça allait être plus facile de naviguer ça avant de commencer les hormones. Parce
aussi.
Que tu voulais pas nécessairement entamer tout ce processus-là en pleine transition, ce qui peut être...
Oui, ben, c'est surtout que je voulais surtout pas comme commencer à prendre des hormones, puis après ça, devoir les arrêter pour comme juste produire un échantillon de spermie et ensuite les recommencer. Et je savais que comme prendre des hormones pouvait affecter ma fertilité, donc c'était clair pour moi que, genre, vu que c'était pas absolument clair pour moi que je voulais pas d'enfant, parce que, comme, en fait, comme j'en veux, c'était un peu le moment pour le faire. C'est comme genre juste... Pour moi, au final, comme, c'était pas si pire parce que c'était vraiment comme genre juste une expérience comme très localisée dans le temps. Puis après ça, c'était fait, puis j'ai plus jamais à y repenser. Comme c'est vraiment pas nice de, comme, d'arriver là, de comme genre se faire appeler monsieur, d'être dysphorique, de rentrer dans la pièce. Puis après ça, comme t'es seul, puis il faut que tu t'arranges somehow pour avoir un orgasme. Mm-hmm. C'est vraiment pas les conditions idéales pour ça.
Parle du fait de créer une famille, de faire un projet parental, puis de penser comment les personnes trans doivent réfléchir à si elles veulent un projet parental avant même de le débuter.
Ce que je trouve vraiment, en tout cas ironique ou surréel là, à la limite, c'est que on n'est pas prêt pantoute à avoir des enfants en ce moment. Là. On n'est pas rendu là du tout dans notre vie. Voyons, au niveau des études, la carrière, la santé, on a beaucoup de choses... Ben, je dis pas qu'on doit tout régler ou tout terminer là, avant de considérer là, d'avoir là, des enfants, mais dans notre plan de vie, il y a des choses qu'on veut accomplir ou il y a des étapes qu'on veut franchir qu'on n'est pas là en ce moment. C'est vraiment ça, là, l'opposition entre les deux. On n'est pas rendu là pantoute, mais il faut être prêt à faire les démarches au début de la transition.
C'est juste le fait d'avoir commencé le processus de fertilité, ça fait en sorte qu'on doit... réviser ça, puis que ça devienne dans un certain sens plus réel, plus proche, comme Kai disait qu'après avoir fait ce processus-là, que pour lui, il voulait pas comme de grossesse de main, que je comprends entièrement.
Mm-hmm. Parce que ça veut dire recommencer ce processus-là.
Oui, oui.
Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans le sens où est-ce qu'une transition médicale, ça prend du temps.
Mm-hmm.
Puis c'est autant au niveau psychologique, que personnel, que social, que c'est beaucoup, beaucoup de temps.
Mm-hmm. Moi, si on a des enfants plus tard, je me pose des questions, comme par exemple, est-ce que je veux allaiter mon enfant? Puis ça, c'est vraiment le genre de choses qui va dépendre de comment est-ce que la transition physique va continuer, de si je suis capable de produire suffisamment de lait. Puis ça, c'est des choses que comme, je ne peux pas prévoir d'avance. Mm-hmm. Tout ce que je peux faire pour le moment, c'est d'attendre, voir si c'est possible, puis après ça, de considérer qu'est-ce que je veux faire.
Pour moi, ça, c'est sûr que je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Je vis beaucoup d'euphorie. C'est comme je m'émerveille vraiment comme un enfant d'être en vie, d'avoir un logement où on est bien, d'être avec ma conjointe que j'aime, puis de. C'est comme quelque chose qui était impensable. C'est comme la base, en fait, pour beaucoup de gens, mais. C'était comme impensable pour nous, cette espèce de normalité ou la vie quotidienne, le tu sais, oh, il faut faire la vaisselle, ou tu sais, c'est rendu quelque chose de juste un peu merveilleux d'exister, de pouvoir avoir cette légèreté-là. Puis de faire ma transition, ça me permet de m'occuper à être autre chose qu'être trans.
Mm-hmm.
Donc, d'être quelqu'un, tu sais, d'être Kai Olivier, puis de, mais c'est quoi mes projets, c'est quoi mes ambitions, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas, au lieu de penser à chirurgie, procédure légale, des coûts, les effets là, de l'hormonothérapie, mais oui, c'est excitant, c'est euphorisant, mais à un moment donné, mais si je fais tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attend de l'autre côté, puis c'est vraiment merveilleux de se dire, ben, on s'en va où?
Merci beaucoup à Kai Olivier et à Andy. Vraiment, c'est le fun d'en apprendre plus sur qu'est-ce qui est en lien avec la préservation de la fertilité. C'est la seule future famille qu'on a dans le podcast parce que je trouvais que c'était vraiment une réalité qui était importante. Pensez-y une seconde, vous êtes une personne trans, non-binaire, vous avez 20 ans, peu importe, et vous devez décider si dans les 10, 15, 20 prochaines années, bien, vous allez avoir des enfants ou non. C'est une grosse décision quand, en plus, on est en train de dealer son propre genre. Alors, je trouvais que c'était important d'avoir deux personnes ou une personne qui vient nous en parler, puis on a eu la chance d'avoir un couple que j'aime beaucoup, qui sont venus parler avec nous de manière vraiment vulnérable du processus, qui est quand même assez difficile, mais qui est extrêmement important pour la communauté trans. La deuxième entrevue, c'est une discussion entre Mona et Margot July, une mère et sa fille. Je crois que vous connaissez déjà Mona, la mère, qui est quand même notre co-animatrice, mais permettez-moi de faire une petite présentation de sa famille. Nicole et Mona sont des pionnières en matière des droits des familles LGBTQ+, au Québec. Leurs enfants sont nés à la suite d'inséminations maison, à une époque où les femmes lesbiennes n'avaient pas accès aux cliniques de fertilité. En plus du contexte d'accès à la parentalité singulier de Mona et Nicole, les deux femmes sont les fières mamans d'un garçon cis-hétéro, Simon, et d'une fille trans-lesbienne, Margot July. Même si les enfants sont rendus à l'âge adulte, Mona, Nicole, Margot July et Simon se voient à toutes les fins de semaine pour partager de belles discussions et de beaux moments en famille. Le respect est une valeur très importante qui est visible entre elles et les mères décrivent leurs enfants comme étant des jeunes adultes déterminés, peu influençables et ayant des opinions bien réfléchies. Mona et moi, on s'est rencontrés en 2019 quand j'étais DG d'Alter Hero, qui est un organisme LGBTQ+ jeunesse. C'est à ce moment-là en fait qu'on s'est rencontrés DG à DG pour parler de possibles collaborations avec nos deux organismes. Mais finalement, ça a donné naissance à une belle amitié. J'ai eu le plaisir de me joindre à plusieurs dîners en famille chez Mona le week-end, puis je dois dire que la cuisine et les conversations y sont toujours extraordinaires. En juillet 2022, Mona et moi nous sommes rendus chez Margot July, où est-ce que j'ai eu l'occasion de visiter son appartement pour la première fois, qui alliait un design soigné et d'uniques trouvailles. Ce qui m'a vraiment pas étonné venant de July. On s'est installé sur sa table de cuisine, qui en fait était un gros morceau de marbre qu'elle a trouvé sur Facebook Market et qu'elle a transformé en table. Donc nous sommes confortablement installés pour une conversation sincère et émouvante sur les joies, les faux pas et les fiertés d'une relation entre une mère lesbienne et sa fille trans. Aujourd'hui, on fait une interview avec Mona, notre co-animatrice, et July, sa fille. Je pense que ça va être intéressant parce qu'on va un peu renverser le modèle où est-ce que maintenant on va poser des questions à Mona puis elle va se mettre un peu dans la peau des gens qui se font interviewer d'habitude.
Yikes!
Alors, j'ai préparé une petite liste de questions avec July préalablement. et aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est l'épisode sur la parentalité trans. Moi, j'ai décidé de faire une entrevue avec justement Mona, qui est une femme lesbienne, et sa fille, July, qui est une femme trans.
Ouais.
Donc, on renverse un peu l'idée encore une fois. Il y a beaucoup de renversements aujourd'hui dans cette...
Shake it up!
Donc, ma première question pour vous, c'est présentez-moi votre famille en incluant vos prénoms, vos pronoms, toute autre information que vous trouvez pertinente.
OK. Est-ce que tu veux commencer, July?
Oui, si tu veux. Ben, ma famille est composée de mes deux mères, Mona, Nicole et mon frère. Moi, c'est July, prénom féminin. Je pourrais rencontrer l'histoire de ma famille, mais je pense que Mona est beaucoup mieux outillée pour le faire. Alors, je vais laisser la parole à Mona.
OK, mais moi, je suis Mona, la mère de July. J'utilise les pronoms elle ou she en anglais. Mais c'est ça. Ça, c'est ma famille aussi, ma conjointe Nicole, avec qui je suis depuis 33 ans. Nos deux enfants, July, qui est l'aîné, qui a 24 ans, et Simon, notre jeune, qui a 22 ans. C'est moi qui vous ai porté, si tu n'as pas su ça, July.
Ah
c'est
ouais?
C'est moi, oui. Et c'est ça.
Mona, est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
Non.
Voilà. Puis comment, tout court. Comment ça a changé à travers ta vie le désir d'avoir une famille.
Oui, mais c'est sûr que quand j'ai fait... j'ai découvert que j'étais lesbienne probablement à 13 ou 14 ans. Et puis, à partir de ça, comme c'était tellement comme pas possible à ce moment-là, dans les années 70, 80, pour les lesbiennes d'avoir des enfants. Mais c'était toujours possible, mais c'était super rare. Donc, j'avais pas ça en tête. Pour vrai, j'avais pas comme l'idée de fonder une famille de tout. Et puis, Nicole non plus. Comme on était ensemble un bon 7-8 ans avant qu'on ait même commencé à avoir une discussion autour de ça. On n'était tellement pas intéressés, mais on n'avait pas de modèle autour de nous. Puis ça, c'était vraiment comme une lacune pour nous. Il n'y avait aucun autre. On avait des amis gays et lesbiennes, mais il n'y avait pas de modèle.
Mais raconte ton histoire à San Francisco, parce qu'elle est tellement belle, je trouve.
l'histoire à San Francisco était qu'on était en vacances parce qu'à ce moment-là dans nos vies, on voyageait beaucoup, 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 contrairement à maintenant. Et on était à San Francisco et on était dans une vieille bar qui était la place où les cafés irlandais étaient inventés. Donc, on prenait des cafés irlandais à 10 heures du matin. Et c'était très tranquille au bar. Et puis, à côté de nous, sur une table, il y avait comme un petit magazine, comme un journal, une revue. Et sur la couverture, donc je l'ai pris. Et puis, sur la couverture, il y avait comme deux femmes avec leurs enfants. Puis, c'était, honnêtement, je pense que j'avais peut-être 28 ou 29 ans. C'était la première fois de ma vie d'avoir comme vu une famille homoparentale. J'ai jamais, jamais, jamais vu ça de ma vie. Et puis, j'étais comme un peu comme, oh! Mm-hmm. Un peu surprise de voir ça. Et puis, c'est à ce moment-là, cette possibilité est devenue plus réelle en voyant l'image. Je pense que c'est à ce moment-là que comme les roues ont commencé à tourner dans ma tête. Mais j'ai dû convaincre maman, hein? Mm-hmm. Tu vois, je ne sais pas si tu savais. Mais Nicole n'était pas très chaude sur ça au début. Elle était comme, mais pourquoi on a une vie parfaite? Pourquoi est-ce qu'on va faire des enfants pour ruiner? Mais donc, j'ai dû la convaincre un peu. Mais elle avait plus comme Nicole et plus comme... Moi, je suis plus viscérale et puis Nicole est toujours plus réfléchie que moi. Et puis, à ce moment-là, elle pensait, mais qu'est-ce qui va être la vie d'un enfant qui a deux mères dans notre société? Mm-hmm. Parce qu'on ne connaissait pas d'autres. Donc, pour nous, on était la première famille. C'est sûr qu'on n'était pas la première famille au Québec. Mais dans nos têtes, comme dans tout notre entourage, on n'a jamais vu. Donc, on pensait, est-ce que ça va être facile ou non? Donc, c'est ça, c'était ça l'hésitation. Mais finalement, on s'est dit, mais on est out comme lesbienne. Puis, il n'y avait pas de problème dans nos vies personnelles. Donc, pourquoi pas?
Mona, est-ce que tu penses que le fait d'être lesbienne t'a préparé à avoir une fille trans lesbienne?
Oui et non. Oui, dans le sens que c'est sûr que c'était pas comme hyper loin de ma réalité lesbienne, pas du tout. Mais même trans, comme j'étais probablement plus au courant des personnes trans que comme une personne en général dans la population. Donc oui, j'étais plus préparée. Mais en même temps, c'est sûr que c'est très différent quand c'est ton propre enfant qui fait un coming out que quand on parle de ça plus théoriquement.
Mm-hmm.
Puis est-ce que tu July dirais... survie. Oh.
Mm-hmm. Justement, July, toi, est-ce que tu dirais que de grandir dans une famille avec deux mères lesbiennes, ça fait que c'est plus facile pour toi de faire tes j'ai mis ici tes coming out?
Oui.
Parce que comme personne trans, on a souvent plusieurs coming out.
Mais je pense que c'est sûr que pour moi, il n'y a jamais eu de souci par rapport à... Il n'y avait jamais eu de questionnement de y allait-il quand même avoir une acceptation familiale. Ça, c'était jamais dans les cartes. Et puis, je savais que peu importe comment j'allais me présenter ou m'identifier, que ma mère allait toujours être là pour moi. Tu vois, puis Nicole, vous étiez tellement comme... acceptante et puis ouverte par rapport à la diversité des normes du genre que, ben, moi, ça m'a permis de vraiment, comme, tu sais, naviguer dans cette identité de garçon féminin pour assez longtemps sans trop me percuté à de l'inconfort. Et puis, je crois que si j'étais dans une famille où les normes du genre étaient appliquées beaucoup plus de façon restrictive, ça m'aurait forcé à prendre
une position
beaucoup plus hâtivement que ce que j'avais fait.
Est-ce que je peux comme raconter une histoire sur l'enfance de July, une autre comme indice que j'ai complètement manqué?
On adore ça.
J'adore les histoires.
Quand tu avais, je crois, 3 ou 4 ans, on avait un livre à la maison qui s'appelait « It's so incredible ». Puis c'était comme autour de la sexualité et puis la diversité, tout ça. Puis c'est un livre que j'ai acheté bien d'avance parce que c'était plutôt qu'un livre pour les enfants de 7, 8, 9 ans. Mais tu l'as pris, tu as commencé à regarder les illustrations. Puis il y avait une illustration d'un petit garçon comme commençant comme bébé, puis ensuite à côté à 2 ans, à 5 ans, à 12 ans, à 20 ans, à 50 et à 80. Et puis donc, on voyait comment le corps changeait. Et puis tu regardais ça et puis tu as commencé à pleurer, mais comme profondément, comme tu étais inconsolable. Puis moi, dans ma tête, j'ai pensé, et puis c'était autour du temps que ma mère est décédée, avant, mais elle était malade. Mais dans ma tête, j'ai pensé, ah, c'est à ce moment que tu as découvert la mort, que tu as découvert que les gens ne sont pas éternels parce que tu voyais toi comme petit garçon et que tu vas vieillir et mourir éventuellement. Inconsolable pendant comme 2-3 jours. Je ne parle pas de comme 5 minutes. Mais je pense que c'était les poils que tu voyais sur l'illustration, parce qu'après ça, c'est devenu une obsession pour toi. Mm-hmm. Les poils, tu détestais les poils corporels. Ouais. Et puis, c'est à ce moment-là que tu as réalisé que tu vas avoir une barbe et puis des poils sur ton... on your chest et puis tout ça.
Mais moi je me souviens aussi d'avoir vraiment des moments de détresse quand tu nous expliquais un peu qu'est-ce qui allait se passer à nos corps, mon frère et moi, avec la puberté. Et puis moi, ça, c'était vraiment comme, non, mais je peux pas vivre ça, c'est...
Et puis c'est seulement quand tu commençais à vraiment déroger des normes, mm-hmm, que là j'ai constaté. Et puis comme, contrairement à ce que j'ai dû faire, comme ma première réaction était la peur. Mm-hmm. Comme j'ai pensé, oh my God, comme tu vas avoir la difficulté.
Ouais.
Donc ça, c'était comme une réaction que j'ai eue qui était probablement pas comme la meilleure.
Et
comme
ça m'a un peu choquée parce que ma réaction face à ta réaction, c'est, ben, comment oses-tu penser que j'ai pas réfléchi à ça moi-même? Que je n'étais pas consciente que être une femme trans dans la société, c'est pas une part de gâteau.
Oui, mais je pense que c'était juste le réflexe d'une mère comme inquiète et tout ça. Puis j'avais peur, comme je me souviens, je pense que tu avais peut-être 17 ou 18 ans, mm-hmm, tu es arrivée à la maison avec des souliers haut talon, mm-hmm, et comme toute fière de ça. Et puis au lieu de comme te complimenter ou de dire quelque chose de positif, j'étais juste comme dans ma tête, je t'imaginais marcher dans notre quartier, puis j'ai pensé que tu vas être battue. Ça, c'était la première pensée que j'ai eue.
Mm-hmm. C'est maintenant que tu dis ça, peut-être ça explique aussi, avec du recul, certaines de tes réactions face à ma féminité quand j'étais plus jeune. Ce qu'à l'époque, moi, j'ai interprété comme que tu associais ma féminité à tout ce qui est artificiel, alors que sûrement là-dedans, il y avait une inquiétude par rapport à ma sécurité aussi.
Mais c'est sûr que j'ai dû examiner mon propre rapport aux gens, comme quand tu as fait ton coming out comme femme trans, puis j'ai commencé à réaliser que j'étais comme hyper sexiste, que j'avais comme une chose comme négative sur la féminité, que j'ai toujours un peu, puis je pense que c'est comme mon background de comme féministe années 80. C'est ça, comme je valorisais plus les choses côté... C'est pas que je valorisais plus les hommes, mais je valorisais plus comme les choses que j'associais avec la masculinité.
Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que Nicole avait ce même bébite-là?
Elle avait ses bébites, mais pas avec July. Parce qu'elle comprenait mieux comme la nécessité que July avait pour s'exprimer.
Mais ça, c'est quelque chose d'étonnant. T'es une personne qui est dans le milieu LGBT, t'es oui. une activiste, tandis que Nicole, c'est quelqu'un qui est plus éloigné du milieu
oui.
LGBT.
Oui.
Puis moi, ça m'avait surpris de ce que tu m'avais dit. Tu penses que Nicole avait mieux accepté en fait l'identité trans de Joy que toi?
Complètement. Okay, la soirée où tu as fait ton coming out, c'était ton 20e anniversaire. Mm-hmm. On était dans un restaurant et puis tu as dit « j'ai quelque chose à vous annoncer » et puis j'avais aucune idée ce qui venait. Comme j'étais tellement comme complètement à côté, j'avais aucune idée. Puis tu nous as dit « je suis trans et je suis déjà en transition médicale » et puis comme moi, j'étais bouche bée, comme complètement. Nicole était comme, on va t'aimer comme n'importe quoi, on veut juste que tu sois heureuse. Et puis, elle était tout de suite dans les accords, et puis super, comme fabuleuse. Et puis, moi, j'étais juste bouche bée. Et puis, je me souviens, je suis allée à la salle de bain, et puis j'ai pleuré un peu dans la salle de bain. Puis, je voyais comme, juste comme la perte des privilèges, ou ce que j'ai pensé va être la perte de tous tes privilèges, comme homme blanc, cisgenre. Et puis, ça restait dans ma tête pendant des jours, si pas comme quelques semaines. Et puis, à un moment, Nicole m'a donné un peu comme le claque dans le visage en me disant, Mona, tu te comportes comme ton père comportait avec toi. Et oui, j'ai dit ça, hein?
Non.
Je t'ai jamais dit ça. Mais elle m'a dit, you're just like your father. Comme elle. Et puis, j'ai réalisé, c'était exactement la réaction que mes parents avaient. Puis, j'ai eu une très belle vie. Donc, j'ai pensé, ça va être la même chose pour toi. Et puis, je le vois, tu es juste out depuis comme 5 ans maintenant ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et puis, tu as un bon job, tu as des amants, tu as toute une communauté. En fait, tu es 1 million de fois plus épanoui que tu étais avant ta transition.
Mona, comment parles-tu de ta famille avant et après le coming out de July?
Je ne sais pas quoi dire comme parfois quand je parle de ma famille. Quand c'est comme une personne que je ne connais pas du tout, je vais juste dire j'ai une fille et un garçon. On a 2 enfants, une fille et un garçon. Mais pour les personnes qui nous connaissaient avant, donc j'ai fait une coming out à tout le monde pour dire que j'ai une fille trans. Mais comme j'aimerais parfois dans mes formations, j'aurais aimé parler du fait que tu es trans parce que j'ai plein de bons exemples des exemples pédagogiques mm-hmm. où je peux comme t'utiliser pour expliquer ouais. des choses, mais je parle jamais de toi parce que c'est ta vie personnelle.
Ben, ça me rassure qu'est-ce que tu dis par rapport à tes formations parce que tu sais, des fois, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, ben, peut-être on n'en parle pas parce que, justement, il y a un peu cette honte de, ah, qu'est-ce que les autres vont penser que moi, je suis trans et lesbienne dans une famille comme la nôtre?
Mais je m'en fous, honnêtement. Comme les gens qui vont penser, c'est parce que je t'ai influencé, mais c'est des gens qui ne comprennent pas.
Mais je vais finir en vous demandant, est-ce que tu as des conseils pour les familles homoparentales qui auraient peut-être des enfants trans?
Mais je vois déjà plusieurs familles homoparentales qui ont des enfants trans. Et puis, j'ai pas besoin de les donner des conseils parce qu'ils vont déjà dans la bonne direction. J'ai une tonne d'exemples en tête et je vois comme une acceptation totale. Et puis, il y a des parents qui sont très ouverts, très aimants. C'est vu comme un positif. Il y a beaucoup de parents qui voient ça comme une grande positif. Et puis, c'est vrai, c'est une grande positif. Donc, pas de conseils.
j'aime ça.
Et si j'avais à ajouter, est-ce que si j'avais des conseils pour les futurs parents qui allaient peut-être avoir un enfant trans, ça serait, oui, juste simplement d'écouter votre enfant et peut-être pas trop s'attacher aux projections qu'on peut faire sur notre enfant. Ouais, juste de ne pas trop essayer de projeter vos propres ambitions et vos propres biais par rapport à ça. Juste avoir une posture d'écoute et de curiosité aussi.
Et merci beaucoup à vous deux d'avoir été vulnérables avec nous et d'avoir raconté.
Et merci à toi, June.
Oui.
Merci énormément à Mona et à Margot July de nous avoir si intimement partagé le parcours d'être une mère lesbienne et d'accompagner sa fille trans dans le processus. Je trouve que c'est beau parce que c'est pas toujours noir ou blanc. C'est pas toujours on accepte à 100% ou on refuse à 100%. Souvent, c'est des zones de gris. Et je pense qu'il faut apprendre à naviguer avec ça. On est dans une société où est-ce que la binarité de genre est très intense, très portée sur nous. Et tout le monde, même des personnes comme Mona, qui ont passé leur vie entière dans le milieu queer, vont devoir réfléchir à leur genre pour mieux supporter leurs proches. Pour conclure, merci beaucoup à Kaya Olivier et à Andy, à Margot July et à Mona, et à toutes les autres familles, les trois autres familles qui ont participé aux deux épisodes sur réalité trans et non-binaire, donc Gabby Tegan, Lux et Eliane et Jessie. Je pense que dans un climat politique comme aujourd'hui, en 2023, d'avoir des entrevues aussi vulnérables humanise des réalités qui sont vraiment trop souvent utilisées à des gains politiques. Ce que je souhaite pour les 25 prochaines années, c'est que les gens nous écoutent, écoutent nos histoires, passent par-dessus la peur de l'inconnu, autant l'inconnu de l'autre que l'inconnu de soi-même. Parce que tout le monde est affecté par les normes de genre strictes, ça peut vraiment devenir confrontant. J'espère vraiment que ce petit podcast, avec son approche bienveillante, affectera positivement des gens qui avaient absolument aucune idée de quoi on jasait quand on parlait de genre, et que grâce à ce podcast, ça devient un petit peu plus clair. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines, au même jour et à la même heure, pour la première partie d'un duo d'épisodes sur la réalité des familles LGBTQ+, hors des grands centres urbains. C'est un rendez-vous. Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.